Voilà, alors je suis Karine Dartig-Pérou, secrétaire générale des entretiens Albert Kahn, laboratoire d'innovation publique. Et ce soir, c'est la fête. Nous fêtons nos 10 ans. Voilà. Donc c'est un moment très fort puisque moi je suis, comme je vais pouvoir le raconter un peu plus tard, depuis le début, dans cette aventure. Une aventure qui de toute façon n'aurait existé sans la collaboration et l'intervention de beaucoup de personnes au sein du département. Mais je vais laisser d'abord la parole à notre président, Georges Siffredi, donc président du conseil départemental donc des Hauts-de-Seine, qui va pouvoir ouvrir cette soirée voulons festive, président. Ah. Voilà. Donc, le programme, bon. C'est 1h30 voilà, de discussion, raconter un petit peu en quoi l'innovation est véritablement essentielle dans notre département. Nous avons également des invités que je présenterai tout à l'heure. Et puis, d'ici 1h30, nous irons déambuler dans les jardins et nous finirons par un cocktail en haut du musée. Voilà, donc une soirée que l'on veut festive. Et vous remercier encore aussi de cette opportunité de fêter cette soirée avec beaucoup d'intervenants, d'anciens intervenants que nous avons ce soir, élus qu'on remercie, quelques représentants également de l'administration et puis des amis des entretiens Albert Kahn qui sont là depuis le début et qui viennent, quelles que soient les thématiques. Merci à tous et nous reviendrons donc sur le sujet de l'innovation publique ce soir. Merci encore, président.
Merci à vous. Bien, mesdames et messieurs les élus, madame la secrétaire générale des entretiens, Albert Kahn, mesdames et messieurs, chers amis, pour célébrer les 10 ans des entretiens Albert Kahn, le laboratoire d'innovation publique de notre département, nous ne pouvions vous accueillir ailleurs que dans ce musée entièrement rénové, dépositaire des archives de la planète et de l'esprit audacieux et visionnaire d'Albert Kahn, à deux pas de sa maison qui, pendant plusieurs décennies, fut lui-même un foyer de réflexion et de pensée particulièrement dynamique et fécond, accueillant régulièrement philosophes et écrivains, artistes et scientifiques, industriels et diplomates, pour débattre des grandes questions politiques et sociales qui traversaient le XXe siècle naissant. Agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Ces mots d'Henri Bergson, qui fut l'ami d'Albert Kahn, résument parfaitement le parcours de cet humaniste philanthrope qui consacra sa fortune à la découverte, à la connaissance et à la compréhension du monde. Le propos de Bergson s'applique tout aussi bien à ce qui se passe désormais dans les entretiens Albert Kahn qui, depuis 10 ans, constituent des moments privilégiés où nous prenons le temps de la réflexion pour mieux agir. En associant élus et agents du département, en dialoguant avec nos partenaires et des acteurs venus d'horizons variés, en invitant chercheurs, universitaires et décideurs, nous voulons promouvoir une réflexion transversale sur les différents champs de compétences et d'action du département, mais aussi, plus largement, sur les grands sujets de société dans lesquels notre action s'inscrit, sur les défis, les transformations et les crises qui marquent ce début du XXIe siècle, que les acteurs publics doivent comprendre et anticiper pour adapter leurs politiques et les faire évoluer. Quand on parle des programmes que nous mettons en œuvre pour favoriser la réussite des collégiens et leur donner les moyens, comme le disait Albert Kahn aux jeunes diplômés qu'il envoyait dans le monde entier, de toujours avoir les yeux grands ouverts sur le monde qui les entoure. Quand on travaille sur nos dispositifs pour prévenir la dépendance, accompagner nos concitoyens vers le bien vieillir et assurer leur autonomie à travers des solutions adaptées à la diversité des situations, quand on déploie notre plan de décarbonation, notre stratégie nature ou encore notre plan vélo, et je pourrais encore multiplier les exemples de la protection de l'enfance à l'insertion en passant par la gestion de l'eau, on voit bien qu'on touche à des enjeux qui dépassent le seul cadre de l'action départementale et qui renvoient à des évolutions majeures et profondes de notre société. Les entretiens à Berkane nous permettent régulièrement de repositionner nos politiques publiques par rapport à ces enjeux structurants, d'interroger nos pratiques et de les adapter pour nous assurer de leur efficacité, de sortir des cadres de pensée habituels et de nous confronter à des approches différentes. Le premier mérite de cette démarche, c'est qu'elle donne du sens à l'action et contribue ainsi à la mobilisation et la cohésion des équipes. Pour les agents de notre département, comme pour les élus, trop souvent, l'urgence des situations à traiter et l'ampleur des tâches à accomplir imposent un rythme qui laisse peu de place au recul et à la réflexion. Les entretiens apportent une pause, une respiration. Ils permettent de rappeler la stratégie dont ces multiples actions du quotidien sont l'expression. Ils contribuent à nourrir l'action et à donner un cap. En replaçant la question du sens au cœur des pratiques, ils constituent aussi un puissant levier pour entretenir la motivation et l'implication des équipes engagées dans un projet de service public guidé par l'intérêt général. Le retour d'expérience sur la gestion de la crise sanitaire qui a bouleversé tant d'habitudes et de certitudes en est un bel exemple, tout comme l'entretien consacré à l'accompagnement à la transformation pour adapter notre administration à l'évolution des besoins, des usages et des comportements, ou encore le cycle de réflexion que nous avons conduit cette année sur les nouveaux défis de la solidarité sociale et l'avenir des métiers du champ social et médico-social, dont nous savons combien, malgré leur rôle central pour la cohésion de notre société, ils souffrent d'un déficit d'attractivité confronté à une inquiétante crise des vocations. Le deuxième mérite de ces entretiens, c'est qu'ils nous poussent à ouvrir l'action publique à l'innovation pour toujours mieux répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux aspirations de demain. C'est tout particulièrement vrai dans le champ des solidarités qui constitue le cœur de nos missions et lors du renouvellement de notre Assemblée départementale en 2021, j'ai rappelé cette exigence qui doit être la nôtre, innover pour mieux protéger. Cela ne signifie nullement faire table rase du passé et s'engager dans une course à la nouveauté pour la nouveauté. Non, ce qui est en jeu, c'est l'efficacité et l'efficience de l'action publique. Et cela passe souvent par des ajustements et des transformations qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui modifient en profondeur la qualité du service rendu et de l'accompagnement proposé. À cet égard, la réflexion conduite depuis 10 ans sur le vivre ensemble, thème ô combien programmatique du premier entretien à Berkane, qui s'est tenu le 18 octobre 2012, sur la lutte contre la pauvreté, sur la réinvention des services de proximité à l'heure du numérique, ou encore sur la relation parent-enfant à l'ère des réseaux sociaux. Cette réflexion a incontestablement nourri l'action publique et infusé dans les services pour mieux répondre aux attentes et aux préoccupations de nos concitoyens. De même, si l'on peut dire que les Hauts-de-Seine sont reconnus comme une terre d'innovation, c'est parce que les politiques conduites en lien avec les communes en matière d'aménagement et d'attractivité du territoire ont pris très tôt en compte le travail prospectif dans ces entretiens sur la ville de demain, sur les métamorphoses de l'espace urbain à l'aune du changement climatique, sur l'économie collaborative et l'économie circulaire pour dynamiser les ressources et les potentiels locaux, sur l'économie de la connaissance et sur la place de la culture, sur la notion de valeur et, au cœur de tout, sur la notion de bien-être territorial. Ce ne sont pas là des abstractions théoriques coupées des réalités, mais des concepts qui permettent d'articuler pensée et action, comme nous y invitait Henri Bergson, vision de long terme et application sur le terrain des politiques publiques, prospectives et évaluations. C'est cette démarche que nous continuons à mettre en œuvre aujourd'hui lorsque, par exemple, nous élaborons la nouvelle politique départementale en direction de la jeunesse, qui fera d'ailleurs l'objet d'un prochain entretien qui se tiendra ici même dès vendredi matin, ou lorsque nous travaillons sur la transition territoriale et les enjeux du développement durable, auxquels nous consacrerons plusieurs entretiens l'année prochaine. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, depuis 10 ans, ont participé à ce bel exercice d'intelligence collective, et tout particulièrement, bien sûr, Catherine, qui en est la chef d'orchestre et qui, depuis le début, s'attache avec talent à organiser la confrontation des points de vue, à apporter des éclairages originaux et novateurs et toujours à bousculer les perspectives. Vous connaissez l'adage « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Eh bien, pour ma part, je souhaite que dans notre département, nous puissions aller vite et loin. Et je ne doute pas que les entretiens Albert Kahn continueront d'être un outil formidable au service d'une réflexion féconde et audacieuse, toujours prompte à sortir du cadre pour cultiver l'innovation au service de nos concitoyens.
Merci beaucoup, Président. Je vais donc cette soirée, en fait, vous l'avez vu peut-être à l'entrée, c'est aussi l'opportunité d'avoir fabriqué un best-of, ce cahier que vous avez dans les mains, qui est aussi qui a été difficile à produire, hein, parce qu'en fait, il y a 10 textes parmi 270 intervenants, oui, 270 intervenants qui ces 10 dernières années sont venus, ont partagé avec nous leur expérience, leur regard sur le monde, sur le territoire. Donc, mais il nous semblait important quand même de faire un petit extrait de ces 10 dernières années. Et en effet, vous le rappeliez, cher Président, que les thématiques ont été très variées. Elles vont continuer à l'être. Et c'est avec ce regard vraiment de diversité, en commençant, en effet, il y a tout juste 10 ans, le 18 octobre 2012, comme vous le rappeliez, autour du vivre ensemble. Voilà. C'est une soirée qui s'ouvre, qui va également donner maintenant la parole à Julien Nessy. Alors Julien Nessy, vous êtes rédacteur en chef d'Horizon Public, qui est une revue un petit peu incontournable pour les acteurs locaux, pour les collectivités territoriales, pour l'action publique en règle générale. Et vous avez découvert il y a quelque temps, si je puis raconter un petit peu la petite histoire, et puis le temps que vous vous installiez ici, vous avez découvert les EAK un petit peu tardivement quand même, parce que c'était il y a 6 mois à peu près. Et vous m'avez dit, mais c'est incroyable, tout ce travail, tous ces échanges, etc. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse aussi un numéro ensemble, Horizon Public et Entretien Albert Kahn. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, vous voyez un certain nombre de revues. Et j'ai profité de cette soirée pour finalement vous demander un petit peu ce panorama, de dresser un petit peu une vision panoramique de l'innovation publique en France. Après, bien sûr, je raconterai la genèse du projet tel que nous, on l'a développé au département des Hauts-de-Seine, puisqu'on est assez pionniers, même probablement le premier département à avoir créé notre laboratoire d'innovation publique. Mais il me semblait intéressant que vous resituiez l'innovation publique en France et en Europe. Quels sont les acteurs, quels sont les sujets, quelles sont les thématiques qui sont aujourd'hui abordées. Voilà.
Je suis rédacteur en chef d'Horizon Public. C'est une revue qui fête ses 5 ans à la fin de l'année, donc qui a été lancée en janvier 2018 avec... c'est vrai, l'envie et l'objectif d'explorer un peu les angles morts de l'action publique. Et du coup, on va arriver à notre 40e numéro. C'est une revue bimestrielle. On a 10 numéros par an. Et donc, merci pour cette invitation qui va nous permettre d'explorer ensemble un peu le panorama de l'innovation publique. Voilà, donc je vais peut-être passer la prochaine slide. C'est sur le bouton lecture, non, c'est ça. Voilà, donc l'idée, en fait, nous, dans la revue, on s'intéresse plus particulièrement à l'innovation publique sous toutes ses formes, hein, aux méthodes, aux outils, voilà, et aussi à la place de l'expérimentation et de la recherche-action dans les démarches d'innovation. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de la revue, avec, comme je vous disais, l'envie d'explorer les angles morts, donc d'avoir une vision à 360. Donc on s'autorise vraiment toute observation. Et donc on a envie d'explorer aussi les nouvelles ingénieries qui sont liées aux enjeux numériques, à la crise écologique, crise sanitaire aussi. On a vu qu'a accéléré l'innovation, hein, avec une intelligence de situation dans les collectivités qui s'est mise en place. Et puis, je ferai un focus aussi sur les nouvelles compétences et les nouveaux métiers pour l'action publique locale. Donc, simplement, on a cartographié en 2018 déjà, dans la revue, un petit peu les différents courants d'innovation, en travaillant sur une carte qui est issue de l'agence anglaise Nesta. C'est l'agence d'innovation sociale britannique, et qui montre bien sur la carte, en fait, que il y a une centaine de concepts, d'outils, de techniques mobilisées, hein, dans l'innovation publique. Elle nous semblait intéressante parce qu'elle montre que ces courants d'innovation s'articulent autour de quatre pôles, hein. Il y a à la fois l'intelligence collective, il y a aussi la technologie, hein, tout ce qui est tech au service de l'action publique, également le pouvoir d'agir des agents, hein, ce qu'ils appellent talent, et puis les innovations plutôt solutions. On a une problématique, on trouve une solution. Et en fait, cette carte, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'en fait, la pratique de l'innovation s'épanouit dans la pluridisciplinarité. Donc un labo d'innovation, finalement, peut générer de l'innovation grâce à une multitude de métiers, de regards. Hein. Je pense que les designers, les ethnographes, on mêle les sciences sociales avec les ingénieurs. Et donc ça, je voulais faire ce petit point rapide. Ensuite, sur la diversité des acteurs, c'est vrai que en 10 ans, le paysage de l'innovation a bougé, hein, même si les acteurs restent les mêmes. Hein. Il y a l'État qui impulse un petit peu par des programmes, des appels à projets, à défis, à communs maintenant, l'innovation dans les territoires. Donc aujourd'hui, c'est la DITP qui est un petit peu à la manœuvre, la Direction interministérielle à la transformation publique. Et puis qui a consacré, là, il y a un fonds de transformation de l'action publique de 80 millions d'euros cette année, qui est axé plutôt sur le renforcement de l'État de proximité. Et puis la DITP anime aussi des laboratoires d'innovation territoriaux, dont j'en parlerai après. Donc ça, c'est les acteurs nationaux. Et ensuite, les opérateurs publics aussi font leur mieux, hein, ça bouge chez les opérateurs publics. Là, je vais prendre quelques exemples. Il y a par exemple donc l'ANACT, l'Agence nationale pour sur les conditions de travail, qui lance là un programme d'exploration sur le futur du travail, hein, après avoir beaucoup travaillé sur le travail en temps de crise. Il y a l'ADEME qui s'est lancé aussi qui vient de lancer une plateforme innovée pour la transition écologique, hein, dont l'objectif est vraiment de soutenir ces démarches. Et puis peut-être un dernier point sur avec l'IGN, l'Institut géographique national, qui a changé sa stratégie pour l'accès vraiment sur les enjeux écologiques, c'est-à-dire la cartographie de l'anthropocène pour comme outil de pilotage pour les acteurs publics. Voilà. Et comme le précisait Karine, il y a effectivement les collectivités locales qui sont embarquées à différents titres dans l'innovation. Et les Hauts-de-Seine font partie, c'est vrai, avec le département de Loire-Atlantique, parmi les départements pionniers dans l'innovation, quoi. Notamment, il y a le département de Loire-Atlantique qui a publié un ouvrage assez important il y a quelques années sur le sujet. Mais malgré toutes ces impulsions, il reste encore beaucoup à faire, puisque la culture administrative est centralisatrice, un peu verticale, empêche parfois l'innovation de s'épanouir. Et puis les nouveaux défis, hein, l'urgence écologique, on l'a vu, et la crise sanitaire, hein, ont vraiment montré qu'il fallait, qu'il fallait aller plus vite et plus loin, quoi. Ensuite, alors sur les différents, il y a différents types d'innovations. Donc nous, c'est vrai que depuis 5 ans, on publie régulièrement des articles, des reportages sur ces démarches. Et là, je voulais peut-être simplement donc préciser, faire un focus sur l'innovation managériale, puisque là, on a consacré un numéro récent, hein, sur ce sujet. Quel manager public pour demain ? Et on s'intéresse un petit peu aux expérimentations qui sont en cours dans les collectivités, les administrations, et notamment sur la symétrie des attentions. Donc voilà, dont l'objectif est vraiment de porter autant d'attention aux usagers qu'aux agents. C'est-à-dire qu'il faut embarquer vraiment les agents, les cadres intermédiaires dans l'innovation, sinon ça, dans l'innovation managériale, voilà, sinon ça c'est pas très, très efficace, quoi. Voilà, donc il y a notamment la CARSAT de Rhône-Alpes qui a fait preuve de démarche innovante, hein, 1800 collaborateurs. Et il y a également un autre concept sur lequel on a travaillé, c'est le principe de subsidiarité. Donc là, c'est vraiment donner du pouvoir d'agir aux agents, voilà, leur élargir leur périmètre d'action. Et on a vu que pendant la crise sanitaire, finalement, certains agents publics ont pris les choses en main et ont pu répondre aux situations d'urgence, quoi. Donc il y a la ville de Caluire-Cuire, donc au nord de Lyon, qui a mis dans sa charte de management et dans son projet d'administration ce principe de subsidiarité. Voilà, donc je passe peut-être ensuite à la question des laboratoires d'innovation publique. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, hein. Il y a un recensement qui avait été fait par acteurs publics là, il y a un an sur le nombre de labos. Ils sont plus de 60. Et il y a 14 laboratoires d'innovation territoriale financés et aidés par la DITP. Donc mon point de vue, c'était un peu de s'intéresser à la question de l'avenir des laboratoires d'innovation publique. Parce que c'est vrai que les laboratoires... certains fonctionnent bien, d'autres moins bien. Et je voulais attirer votre attention sur un programme de recherche-action qui a lieu en ce moment, qui s'appelle les Labonautes, hein, qui est mené par la 27e région, donc qui est un des acteurs historiques de l'innovation publique en France, voilà, et qui accompagne les collectivités locales depuis plus d'une dizaine d'années, et qui est mené donc par la 27e région. Le TILAB aussi, c'est le laboratoire d'innovation de la région Bretagne, et la DITP, sur un petit peu comment finalement faire pérenniser les pratiques et laboratoires d'innovation sur le long terme. Et simplement, je voulais vous parler des difficultés des laboratoires. Parce que souvent, il y a des laboratoires qui ne servent que de boîte à idées. On vient piocher des outils, des concepts, mais on reste finalement dans la boîte à idées. Il y a une deuxième difficulté, ce sont les labos un peu poste de coup, si je puis dire, entre guillemets. C'est-à-dire c'est des laboratoires qui sont plus vus comme une dépense plutôt qu'un investissement. Donc ça, en général, on va droit à l'échec. Il y a également des laboratoires à gouvernance limitée, donc qui sont un petit peu en mode survie, quoi, et qui dépendent trop du top management. Ça a été souvent identifié par les participants à ce laboratoire, à ce programme d'action recherche. Il y a également le labo consultant. Voilà, on se sert du labo finalement comme un consultant interne. Voilà. Et un dernier point, c'était le laboratoire hors champ, voilà, qui souvent est déconnecté un peu du middle management ou des agents publics et qui fonctionne de manière trop proche du top management. Voilà, ça me semblait important d'en parler ce soir. Voilà, et donc il y a la question de leur survie à long terme, hein, forcément. Je pense qu'on pourra aborder cette question. Hein, Voilà, alors je voulais juste aussi faire un rapide tour d'horizon, un petit peu des tendances, nous, qu'on a pu identifier, puisqu'on a sorti un numéro anniversaire aussi sur nos 5 ans d'exploration publique. Et c'est vrai qu'on a identifié des tendances fortes, hein, comme l'irruption, enfin les communs, hein, comme la nécessité de prendre soin de nos biens communs, que ce soit l'eau, l'air, la santé, hein, on l'a vu avec la crise sanitaire, la place des usagers aussi dans l'action publique. Donc là, je consultais le best-of des EAK Et j'ai vu que vous aviez consacré un entretien avec Pierre Rosanvallon. Voilà, on est allé aussi l'interviewer sur la question des invisibles, hein, de l'action publique. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Il y a trop d'usagers qui sont encore trop en dehors du scope des acteurs publics. Voilà, et il y a également une tendance forte, c'est aménager autrement les villes et les territoires. Donc c'est vrai que bon, maintenant, il faudrait plutôt parler de ménager autrement les villes et les territoires, en prenant en compte davantage la biodiversité, les enjeux écologiques. Et puis, bon, bah, évidemment, il y a eu l'impact de la crise sanitaire, hein, sur les organisations publiques comme privées. Hein, ça a accéléré l'innovation. Et puis ça a montré aussi les dysfonctionnements, hein, on l'a vu. Voilà, donc c'est vraiment des tendances que je souhaitais partager avec vous ce soir. Voilà, et après, je voulais faire un focus sur les métiers de demain, en fait, de l'action publique territoriale, parce que c'est vrai que je suis venu au mois de juin, moi, assister à un EAK sur l'avenir des métiers du social et du médico-social. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, hein, sur la crise des vocations, la crise du recrutement, les nouvelles compétences, les difficultés aussi à recruter, hein, des aides-soignantes, des infirmières. Donc là, je voulais vous parler peut-être du profil de redirectionniste, en fait. Effectivement, on a consacré un numéro, nous, sur la question de la redirection dans les territoires et les villes, redirection écologique, voilà, qui est un mouvement assez finalement radical qui considère qu'il faut totalement revoir notre approche et nos logiciels de pilotage des organisations. Et puis surtout, comment faire avec l'existant. C'est notamment la problématique du zéro artificialisation net. Voilà, on ne va plus pouvoir construire sur de terres agricoles. Donc il y a la question des friches industrielles, du bâti déjà existant. Donc voilà, on a besoin finalement de redirectionnistes dans nos organisations pour penser, en fait, l'avenir du territoire, quoi. Et c'est vrai qu'il y a maintenant des formations niveau master qui forme les futurs managers publics à ces questions-là. Voilà, il y a les métiers de l'accueil aussi qui sont peut-être à repenser, voilà, avec la transformation numérique, les nouveaux usages. Et donc là, il y a le laboratoire du TILAB qui travaille sur effectivement ces questions-là. Comment repenser l'accueil dans les services publics et notamment travailler les questions de posture et de compétences. Davantage axé sur le prendre soin des usagers, puisqu'on voit aussi que la fracture numérique vis-à-vis d'une certaine partie de la population est de plus en plus forte, hein. Je pense aux personnes âgées qui ont du mal avec le numérique. Voilà, donc il faut peut-être revoir les guichets d'accueil. Voilà, donc il y avait également, on avait pu consacrer effectivement notamment un travail sur la gestion plus prospective des talents, de manière, voilà, à identifier les tendances lourdes et à se projeter sur les métiers de demain. Et notamment, il y a un exemple intéressant, c'est ce que fait l'administration au Canada. Voilà, ils ont mis en place une plateforme pour favoriser la mobilité et l'expertise de leurs propres agents. C'est-à-dire qu'on peut, en étant fonctionnaire, faire une mission de 6 mois dans une autre administration, et ainsi mettre son expertise au service d'une autre administration. Ils appellent ça les agents libres du Canada. Donc c'est un point intéressant, je trouve. Voilà. Et du coup, il y avait aussi, comme l'a précisé en préambule le président du conseil départemental, donc la nécessité d'avoir des approches plus créatives. Donc je voulais vous parler simplement du Polo, qui est un organisme basé à Saint-Pierre-des-Corps et qui travaille avec des artistes pour essayer de repenser un peu l'aménagement dans les territoires. Et notamment, là, ils ont un programme qui s'appelle le Parlement de la Loire et dont l'objectif est d'avoir une approche plus sensible avec la Loire, de considérer la Loire comme faisant partie du patrimoine vivant, et donc de lui accorder un statut juridique. Voilà, on pourrait imaginer la même chose avec la Seine, par exemple. Voilà, c'est une démarche qui est au croisement de, de la démarche artistique et en même temps avec des urbanistes, quoi. Voilà, c'est le genre d'approche dont on aime bien parler dans la revue parce qu'elle bouscule un petit peu les codes. Donc, voilà. Et il y avait également donc, la démarche du design fiction. Je crois qu'on a un exercice de design fiction ce soir sur les EAK. Hein, donc et du coup, là, c'est vrai que c'est pareil. C'est une démarche qui est un peu critique et qui est destinée un peu à interpeller les usagers sur des politiques publiques, quoi. Donc là, il y a notamment, on s'était intéressé, nous, à une agence anglaise qui avait mené un exercice de design fiction donc à Londres, en Angleterre, avec le Parlement britannique, voilà, pour un peu déconstruire et reconstruire les politiques de vieillesse. Voilà, ils avaient imaginé même un objet un peu polémique voilà, sur l'euthanasie en libre accès. Voilà, pour faire réagir un peu les députés au Parlement et inciter à faire bouger les politiques d'action publique pour la prise en charge des personnes âgées. Voilà, donc simplement, voilà, moi, Horizon Public fête ses 5 ans et participe à pas mal d'événements là, cette fin d'année. Voilà, et on est ravis d'être présents aujourd'hui, quoi, aux entretiens Albert Kahn. Voilà. Merci.
Alors, je vous propose peut-être de faire maintenant une petite intervention sur les entretiens Albert Kahn, laboratoire d'innovation publique du département des Hauts-de-Seine, et peut-être de laisser la place par la suite à la discussion. Et puis, nous aurons en clôture un feu d'artifice, en effet, dystopique sur les EAK à 10 ans. Mais peut-être après mon intervention, eh bien, vous serez les bienvenus si vous souhaitez... adresser des questions à notre président ou à Julien ou à moi-même sur cette soirée. Alors peut-être quelques mots, en fait, j'aurai trois temps dans mon intervention. Donc ce qu'Albert Kahn a inspiré, hein, qu'est-ce que sont ces entretiens Albert Kahn, laboratoire d'innovation, dont nous fêtons les 10 ans ce soir. Et puis peut-être aussi se risquer à quelques réflexions prospectives sur ce que les EAK pourront être demain. Alors, ces entretiens Albert Kahn, laboratoire d'innovation publique, c'est d'abord des remerciements que je tiens à dire, puisque je vois souvent la DITP, notamment, vous le citiez, demander, voilà, il y a combien de personnes, de salariés au laboratoire d'innovation publique? Mais en fait, il y a une quantité de gens qui travaillent très régulièrement sur ces entretiens Albert Kahn. C'est le parti pris que l'innovation n'est pas portée par quelques-uns, mais au contraire, est porté par tout le monde, que ce soit nos élus, que ce soit notre administration. Alors bien évidemment, il y a ce choix politique extrêmement fort de mettre l'innovation au cœur de la politique, et vous l'avez rappelé, Président, et je tiens à dire que ceci n'est pas commun. Beaucoup de laboratoires, Julien l'a rappelé, ça fait même pas 5 ans que des laboratoires d'innovation publique se sont créés, la plupart, hein, la grande majorité, très orientés aussi sur le design thinking, sur les processus, sur le numérique, sur les outils. Ici, vraiment, la volonté, c'est de travailler autour de ce sujet d'innovation que je vais développer. Alors, c'est d'abord aussi un laboratoire et au service de l'humain. C'est aussi pour faire le pendant à beaucoup de laboratoires très tournés sur les outils numériques ou les processus ou les méthodes. Non, ici, finalement, la volonté de départ et qui est toujours maintenue 10 ans après, c'est vraiment de faire un laboratoire au service de l'humain. Et c'est important de le rappeler à l'heure de l'intelligence artificielle, puisque notre directeur général des services, Jérôme Dian, m'a chargé de animer une réflexion sur l'éthique des technologies très prochainement. Nous allons le faire, mais on voit bien qu'au département des Hauts-de-Seine, nous nous posons d'abord la question de l'humain avant la technologie et comment les technologies peuvent bien sûr nous aider à être beaucoup plus efficaces. Donc on parle de l'humain, on parle de l'élu, on parle de l'agent, on parle du public, on parle du citoyen, et c'est un parti pris que de parler de politique publique en pensant à la personne. Voilà. Premier parti pris très fort, qui est donc de centrer ce laboratoire et cette réflexion au service de l'humain. La deuxième chose, c'est que notre laboratoire a été créé pour finalement développer la transversalité au sein de l'administration, entre les élus et l'administration, mais aussi au sein même des services de l'administration. Et ce laboratoire n'existerait pas sans tout le soutien de l'équipe. Alors, je ne me risque pas à lister tout un nombre de personnes, mais peut-être les équipes, ou à commencer peut-être par Isabelle Carpentier, si elle est là, du cabinet. Donc déjà les équipes du cabinet, le cabinet du président, à commencer par Dominique Lullier, avec qui j'échange, avec qui nous réfléchissons à ces thématiques, mais également notre directeur général des services, Jérôme Dian, toute l'équipe communication, l'équipe logistique, l'équipe d'accueil, les ambassadeurs, ce que j'appelle les ambassadeurs de l'innovation, c'est-à-dire parmi vous, certains sont là ce soir et je les en remercie, des gens qui viennent régulièrement travailler avec nous au niveau de, finalement, de la réflexion prospective. Bien sûr, la logistique, les personnes qui nous aident dans l'édition, à commencer par notre éditrice qui arrive là à Nandro et que je remercie d'être là. Enfin, bref, nous sommes une bonne vingtaine à œuvrer pour que, finalement, ces entretiens puissent se dérouler régulièrement. Alors, à qui s'adressent ces entretiens? Et c'est là aussi un parti pris assez intéressant. C'est que dès le démarrage, ce public doit être mixte. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, bien sûr, des personnes, des partenaires du territoire, mais aussi des personnes de l'administration et enfin des élus. Et oui, nous avons des élus des territoires, pas assez peut-être du département, mais bien évidemment, et vous êtes là, et je vous en remercie, de contribuer régulièrement à cette transversalité. Donc cet engagement des élus, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN des entretiens Albert Kahn. Vous voyez, j'ai choisi ces photos qui viennent de la maison. Hein. Je vois Olivier Grégoire qui est là, photographe. Et encore une fois, merci beaucoup pour ces très belles photos. Nous voyons le président de Vedjan au Vivre Ensemble, qui était en effet le lancement de notre entretien Albert Kahn le 12 octobre 2012. Et puis là, notre président Sifredi, qui a ouvert après une période de Covid, donc pas facile non plus. Enfin, on se retrouvait autour de l'EAK, innover pour les métiers d'art et du design. Donc ça également, c'est un troisième parti pris, parce qu'on le sait en prospective, la prospective vient du haut. Il faut qu'il y ait une décision, quand même un engagement, pour vraiment pouvoir se donner ce champ de vision, de réflexion, comme vous le disiez, ce pas de côté également, pour voir plus loin. C'est un choix politique. Alors, d'où est né ce projet? Tout simplement, je crois que je l'ai aperçu, Marie-Célie Guillaume, qui, un jour, il y a maintenant de cela, donc 11 ans, est venu me voir en me disant, écoute, est-ce que tu ne veux pas nous aider à réfléchir? Marie-Célie Guillaume était directrice de cabinet à l'époque du président de Vedjan. La maison Albert Kahn va réouvrir, elle a été rénovée. Mais la Société des Amis d'Albert Kahn est très active, elle fait déjà beaucoup de choses. Donc on se dit, peut-être ça serait l'occasion de réfléchir. Donc nous avons réfléchi ensemble. Et très vite, grâce à l'aide de toute l'équipe culture et de l'équipe documentaliste du musée Albert Kahn, j'ai pu, à travers les archives, découvrir ce fabuleux héritage du comité d'études politiques et sociales créé en 1916. Et à l'époque, qu'est-ce que Albert Kahn finalement avait voulu? Il avait voulu rassembler les grands décisionnaires de l'époque, français et internationaux, à réfléchir sur des sujets, mais totalement d'innovation. Parce qu'à l'époque, on parlait d'économie, on parlait de gestion des conflits sociaux, on parlait de gestion des grèves, on parlait de logement ouvrier, on parlait de la médecine préventive. Enfin, voilà, c'était il y a un siècle. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu ça, c'est ce pas de côté entre à la fois se nourrir de l'héritage d'Albert Kahn, mais aussi ne pas rester sur le passé, mais construire le futur au service du territoire. Et puis également, comme j'avais vécu beaucoup à l'étranger et que je suis polyglotte et que je suis par ailleurs de manière très intéressée tout ce qui se passe dans les pays scandinaves, eh bien le Danemark venait de créer le Mind Lab, qui est le premier laboratoire au niveau mondial d'innovation publique. C'était pas un laboratoire d'innovation territoriale, c'était un laboratoire interministériel. Et je me suis dit, mais en fait, à l'échelle territoriale, on peut faire également beaucoup de choses. Et pourquoi ne pas travailler cette transversalité? Et c'est vrai que ce désir, finalement, de faire parler les élus avec l'administration, avec les partenaires sur le territoire, était vraiment à la genèse de ce projet. Et j'ai finalement travaillé pendant un an sur la programmation. Et finalement, je suis restée, vous voyez, et passionnée par tous ces sujets et toujours source d'inspiration pour faire travailler le territoire. Alors, ces entretiens Albert Kahn, eh bien, c'est vraiment l'héritage de l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit kahnien. Donc, vous avez Albert Kahn qui, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas au milieu, 1860-1940, vous avez Henri Bergson qui a été en effet son précepteur et amis, et dont beaucoup de points communs également sur cette vision du monde, de la société humaine. Et puis Jean Brune, qui est peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais qui était géographe. Et Albert Kahn s'appuyait énormément sur les scientifiques pour mener à bien ses expéditions, ses grands voyages, pour financer les bourses, pour financer aussi les autochromes. Et donc, cette triade de personnalités est très importante. Vous voyez, un philosophe, un géographe, un banquier qui s'est retrouvé banquier richissime à l'époque. Il faut quand même voir qu'au début du XXe siècle, eh bien, on était sur une équivalence de richesse des Rothschild. Hein. Donc, incroyable, une richesse incroyable, énormément d'argent qui a été donné, qui a été investi pour les bourses, pour les archives de la planète. Et vous verrez tout à l'heure les jardins, vous pourrez déambuler dans les jardins et apercevoir la maison d'Albert Kahn. Donc cet état d'esprit d'ouverture, il est commun à Albert Kahn, mais il est au cœur de la prospective. Il est au cœur de l'esprit prospectif, c'est-à-dire s'ouvrir, ne pas rester fermé, s'ouvrir à la différence, s'ouvrir à l'altérité. Et vous le savez, ô combien c'est difficile. Ce n'est pas toujours facile de s'ouvrir à la différence, de s'ouvrir aux autres et de composer avec eux. Et j'adore cette photo, Tagore était aussi un ami d'Albert Kahn, et donc à cette époque-là, on était vraiment dans les prémices de ce qui allait devenir la Société des Nations. C'est vraiment cet héritage de cosmopolitisme, et on va le voir tout à l'heure par un petit film, Albert Kahn et ses invités. Donc l'héritage, c'est savoir, c'est prévoir, disait Albert Kahn, et en fait, pour lui, l'enjeu, c'était véritablement de découvrir le monde, c'était de s'ouvrir à l'altérité. Il pensait qu'en effet, en comprenant l'autre dans sa culture, c'était le meilleur moyen d'éviter les guerres. Et je rappelle quand même qu'Albert Kahn était juif, qui était un juif alsacien de famille moyenne, qui était venu travailler à Paris, qui avait fait fortune. Et il est quand même, à cette époque-là, fin 19e, toujours dans un contexte politique en France extrêmement compliqué, toujours avec vraiment ce sentiment de comprendre la différence de l'autre. C'est une manière aussi de s'enrichir et de pacifier le monde. C'était également le souhait de s'adresser aux générations futures. Et pour nous, ça a été le point de départ dès le départ. C'est pour ça que nous organisons de temps à autre des entretiens Albert Kahn en dehors des murs, ce qu'on appelle en dehors des murs, c'est-à-dire à la fac, à Vinci. On l'a fait aussi dans le cadre du festival Atmosphère pour toucher des publics plus jeunes et bien évidemment pacifier donc cette dimension de relations interhumaines. Créer les conditions du dialogue. Et créer les conditions du dialogue, c'est ce que finalement Albert Kahn faisait lorsqu'il invitait ces différentes personnes à venir réfléchir et après à publier ses bulletins suite aux rencontres du comité d'études sociales et politiques. Et puis également, l'héritage d'Albert Kahn, c'est favoriser la connaissance. Parce que toute cette recherche livresque, encyclopédique, cet esprit de collection, c'est véritablement pour le mettre au service de la connaissance et également de contribuer à cette société, ce qu'il a appelé société humaine, c'est-à-dire l'unité dans la diversité, qui, comme vous le savez, est également le projet européen porté par l'Union européenne. Donc là, je vous propose très rapidement de lancer, si vous aviez la gentillesse en régie, de lancer ce petit film qui nous a été prêté par le musée. Et donc, c'est Albert Kahn et ses invités. Avant toute rencontre chez lui, Albert Kahn faisait visiter son jardin à ses invités. C'est ce que vous ferez à l'issue de cette rencontre à 18h30. Voilà, donc là nous avons Henri Gouraud, un général. Et puis là vous avez le prince Naruhiko Higashikuno, qui est membre de la famille royale impériale. Donc Albert Kahn était très proche de plusieurs amis au Japon. Vous avez après toute une délégation, alors là, c'était avant, mais il y avait toute une délégation arménienne aussi qui venait lui rendre visite. Ça va tellement vite. Voilà. Et là, pour finir, c'est en fait la femme de l'ambassadeur de Turquie en France qui venait rendre visite. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait cette balade à travers les jardins avant d'être reçu dans la maison Albert Kahn que vous allez apercevoir tout à l'heure au moment de la déambulation. Bon, alors je remonte. Si vous pouviez me mettre sur panorama, s'il vous plaît. Voilà. Alors maintenant, je vous propose l'extrait de l'émission de radio « Toute une vie » de France Culture. C'est une émission qu'a réalisée Martine Abbat et Diffy Mariana. Je remercie Martine Abbat d'être avec nous ce soir. Albert Kahn rêvait d'un monde nouveau. Et pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Déjà, je vous recommande d'écouter cette émission parce qu'elle est en podcast, elle est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est une des rares fois à ma connaissance où on l'a vraiment abordé, Albert Kahn, avec cette vision du cosmopolitisme, de ce regard sur le citoyen du monde. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, j'ai choisi un extrait d'une documentaliste qui travaille au musée, Anne Sigaud, et qui est probablement la personne la plus grande spécialiste d'Albert Kahn que nous avons la chance d'avoir au département. Et donc, c'est aussi en son hommage que j'ai choisi cet extrait. Donc, si vous aviez la gentillesse de lancer, là, on est 3 minutes en audio.
Le grand mot qu'utilise Albert Kahn, c'est la documentation. Donc son projet, principalement, est documentaire.
Anne Sigaud.
Ce qu'il entend par documentation, c'est indissociable de deux choses. Premièrement, d'une pensée philosophique. Une pensée philosophique qui pourrait se résumer de la façon suivante. Les mêmes lois générales régissent l'univers et la société humaine. Tout organisme biologique, les plantes par exemple, et la société. Tout est interdépendant, tout évolue sans cesse, et les mêmes lois générales régissent le microcosme et le macrocosme. Tout dans l'univers, que ce soit dans les systèmes planétaires, les systèmes cosmiques, à l'intérieur d'un organisme vivant ou que ce soit au sein d'une société humaine, tout procède par association et par évolution et transformation constante. Et si l'homme en société et au quotidien vit, dirige, gouverne, agit en harmonie avec les grandes lois de l'univers, l'homme peut réaliser son destin et l'homme peut être heureux, tout simplement. Donc de cette pensée philosophique naît un projet politique qui vise à réformer le régime, donc ça c'est écrit, il convient de réformer les régimes politiques. Il faut passer de régime individualiste à un régime mondial de gouvernance et qui soit fondée sur l'association sous toutes ses formes, que ce soit le syndicat, la fédération, la corporation. Voilà, toutes les formes d'association sont bénéfiques, et tout ce qui est mondial, hein, et pas seulement international, mais tout ce qui est mondial, donc supranational, ce qui est assez avancé hein, comme type de pensée pour l'époque, correspond à l'étape à laquelle se trouve l'humanité, au moment où éclate la guerre mondiale et ensuite. Donc c'est une pensée qui est déjà développée tôt hein, chez Kahn, qui est déjà en gestation quand il amorce ses premières fondations au tournant du siècle, mais qui va être théorisée pendant la guerre dans un document qui s'appelle « Des droits et devoirs des gouvernements » et qui va vraiment être mis en œuvre pendant toute l'entre-deux-guerres jusqu'à sa ruine.
« Des droits et des devoirs des gouvernements », contrairement à ce que son titre peut supposer, n'est pas un traité, il est à peine un manifeste, c'est un recueil de pensées, d'aphorismes, de réflexions autour de la question de la guerre, de la paix et de la nécessité d'organiser les sociétés autour du progrès et du pacifisme. Donc c'est une compilation en fait de phrases très courtes, parfois un peu mystiques, et on le sait, c'est un personnage qui est bouillonnant, qui a beaucoup d'idées, mais qui a des fois du mal à les exprimer. Et on retrouve dans ce style d'écriture assez ésotérique, on retrouve évidemment les grands principes d'un autre personnage fondamental pour Albert Kahn, qui est Henri Bergson, donc qui promeut également énormément la question de la paix et de la coopération internationale. Donc ça, c'est vraiment le leitmotiv de ce texte, concevoir un organe mondial de réflexion, de prévoyance, parce que pour lui, savoir, c'est prévoir, et prévoir, en fait, c'est essentiel pour aboutir à une société meilleure. Et c'est son obsession, donc toutes ses fondations vont dans ce sens-là, d'ailleurs.
Les élites doivent être douées de la faculté de voir ce qui n'est plus, ce qui n'est pas encore, ce qui a été, ce qui pourrait être, ce qui pourrait avoir été.
Voilà, je trouve que c'est une très très belle définition de la prospective, finalement, et de cette nécessité de regarder loin, qui est un des attributs de la culture de l'anticipation et de la prospective. Alors, c'est vrai que peut-être ce qui singularise l'action des entretiens Albert Kahn, laboratoire d'innovation publique, c'est vraiment cette idée de partir du monde, de partir de la mondialisation, de partir aussi des grandes tendances, des grandes évolutions mondiales, et de se dire il y a des interdépendances aussi entre notre territoire, département des Hauts-de-Seine, et bien évidemment toutes les grandes mutations qu'on connaît, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient aussi écologiques, qu'elles soient sociétales, d'anticiper ces évolutions en cherchant les signaux faibles. Et surtout aussi, c'est quelque chose qui singularise l'action des EAK, c'est de privilégier les démarches scientifiques. Voilà. Donc notre choix est plutôt que voilà, de faire venir des consultants qui aident à faire des choses, etc. Le parti pris est vraiment de faire un travail en interne avec les équipes internes et également de plutôt privilégier les démarches scientifiques comme Albert Kahn en son temps d'ailleurs qui soutenait les démarches scientifiques, et de valoriser les partenariats. Et partenariat, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a organisé des matinées, par exemple, avec la Fondation des Transitions. On a organisé aussi des réflexions avec le Lab 21, puisque régulièrement, le Lab 21, qui est le laboratoire d'innovation publique à Bordeaux, intervient ici, et nous, on intervient aussi chez eux. Donc, il y a des coopérations comme ça, qui se crée au fil de l'eau, avec vraiment cette recherche de s'ouvrir à la diversité des représentations. C'est-à-dire qu'on va chercher, en effet, sur un même sujet, différentes manières de voir, donc de manière à décloisonner, à avoir aussi des données, des faits, mais aussi des artistes, des philosophes, des intellectuels, des acteurs aussi du terrain, bien évidemment, qui viennent réfléchir avec nous de manière transversale et décloisonnée. Alors, la pratique au niveau de l'innovation, eh bien, ces trois choses, peut-être rappeler que les trois valeurs du département des Hauts-de-Seine, ce sont proximité, solidarité et innovation au service de l'attractivité du territoire. Il se trouve que ces trois valeurs, en fait, tiennent à travers le temps. C'est pour ça que je me dis, Ça, c'est un socle important parce que finalement, dans toutes les enquêtes qu'on a fait sur le retour de la gestion de crise ou toutes les travaux que l'on a fait, finalement, on se rend compte à quel point ce sont trois valeurs qui résonnent au sein de l'administration. Donc, par innovation, eh bien, il y a trois types. On entend trois types d'innovation. L'innovation territoriale, hein, c'est-à-dire celle de toutes les énergies créatives qui agissent sur le territoire. L'innovation managériale, c'est-à-dire vraiment avec l'idée de chercher la congruence entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement créer les conditions de l'innovation sur le territoire si on ne s'applique pas à nous-mêmes l'innovation. C'est-à-dire vraiment cette recherche de cohérence entre ce qu'on l'on fait au sein de l'administration et également ce qui est pratiqué sur le territoire. Et puis l'innovation dite expérimentale, c'est-à-dire celle des EAK, laboratoires d'innovation publique, avec cette idée de tester des faire autrement, des manières de faire en amont des politiques publiques, sachant que pour nous, l'innovation, en fait, elle est portée par tous, elle est pour tous, elle est portée par tous au sein de l'administration. Et in fine, bien évidemment, chaque réflexion est aussi l'occasion de se poser l'impact, bien sûr, sur notre gouvernance. Comment faire ? Là, on le voit avec la prospective jeunesse, l'atelier prospective jeunesse qu'on a organisé il y a quelque temps et que on continue, sur lequel on continue de réfléchir et d'agir. Eh bien, bien évidemment, se pose la question, comment on élabore des politiques publiques ? Comment on fait avec les publics ? Est-ce qu'il faut des jeunes sur une politique jeunesse ? Si oui, quand c'est qu'on les sollicite ? À quel moment ? En amont ? Pendant ? Au moment de l'évaluation ? Et si oui, quel type de jeunes ? Est-ce qu'on essaye de travailler avec les jeunes qui sont complètement directement concernés par des politiques ou au contraire, il ne faut vraiment pas enfermer et avoir une diversité, une ouverture à une diversité de jeunes, par exemple, si vous voulez. Donc, à chaque fois, vraiment, cette question pose aussi la question de l'impact sur la gouvernance territoriale. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de photos sur l'innovation managériale. Très tôt, on s'est rendu compte qu'il y avait également la nécessité d'avoir des temps entre les élus et les agents pour réfléchir, mais sans les partenaires. Donc ce sont des moments un petit peu privilégiés où on se sert très fort à la maison Albert Kahn, comme vous voyez, où on réfléchit, on travaille, on fait venir différents intervenants qui sont là d'ailleurs parmi nous ce soir. Et c'est une occasion de travailler vraiment cette congruence, et ça, c'est vraiment sous l'égide de notre directeur général des services, qui aussi également réfléchit aux objectifs et aux sujets. Et puis, le retour sur la gestion de crise, pourquoi c'est important d'en parler ? Parce que en effet, nous avons eu énormément de retours au lendemain de la première vague de crise Covid, et on s'est vraiment rendu compte à quel point, finalement, toute cette culture d'anticipation qui était créée, finalement, autour de ces entretiens et de ce laboratoire public avait, finalement, permis d'anticiper les solutions. Et bien évidemment, la gestion de crise, ça n'est pas la culture de l'anticipation. C'est-à-dire que la culture de l'anticipation va aider le moment venu, le moment de la crise, à mieux gérer, à mieux s'y prendre, à trouver les solutions de manière plus rapide. Et ça, c'est remonté très, très fortement de l'administration. C'est remonté très fortement des agents qui ont dit, finalement, on s'en est sorti parce qu'il y avait aussi cette culture de l'innovation et donc de la transformation. Parce que qui dit innovation dit également transformation. Et c'est le principe même de la prospective. Aujourd'hui, regarder loin, c'est pas uniquement pour regarder loin. C'est aussi de se dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sur quoi il faut qu'on se transforme, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et innover, c'est aussi une manière d'expérimenter d'autres choses. Alors, également quelques exemples d'innovation expérimentale avec des succès et des échecs. Parce que l'innovation, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. On aurait aimé que ça fonctionne. Et puis, il y a également une évolution du cadre réglementaire qui fait notamment que la loi NOTRe, par exemple, a mis fin à toute une politique en matière d'ESS où on avait vraiment travaillé beaucoup d'actions sur l'économie collaborative, notamment au service du territoire. Un gros travail fait sur le renouveau des pratiques d'accompagnement du social. Déjà, cette époque, mais voilà, qu'on continue parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et également des initiatives comme les tiers-lieux, voilà, sur lesquels on a été probablement un des premiers acteurs à travailler sur ces tiers-lieux. Et ça a donné naissance sur le territoire à de très beaux projets comme SoSmart. Valérie, la représentante de SoSmart, est là. Voilà, tu es là ce soir, Casaco, etc. Et c'est vrai que c'est... Ces expériences nous montrent que finalement réfléchir, par exemple à l'époque à la question du tiers-lieu, c'est pas uniquement un espace de travail. On s'est très vite rendu compte que ces espaces devaient être aussi des espaces d'émulation, de rencontres sociales, devaient être aussi des espaces où la dimension artistique devait être convoquée. Je vous parle de quelque chose d'il y a quasiment 7-8 ans hein, maintenant. Et c'est vrai que quand on voit des projets comme JAD, le Jardin des Arts et Métiers aujourd'hui, qui répondent totalement à ces dimensions. Alors depuis, on a même une politique européenne du New Bauhaus européen hein, qui mêle durabilité, esthétique et innovation et faire ensemble. Mais je pense que là aussi, tout ça a été permis grâce à ce travail avec la communauté des acteurs du territoire. Et le fait de se connaître, de se repérer à titre individuel, bien au-delà des institutions, est un critère également important de succès, de résilience, c'est-à-dire le moment venu, on se connaît, on se pratique et on trouve les solutions ensemble. Et cette retour de gestion de crise l'a bien montré par les faits. Alors peut-être je vais, comme je suis assez passionnée, je pourrais vous parler des heures, des entretiens Albert Kahn. Mais j'ai bien compris que ce n'est pas l'objet uniquement de cette soirée et que nous allons, je vais pouvoir céder la parole aussi à Olivier sur ce regard dystopique. Et c'est aussi un moment pour faire la fête. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour continuer à vraiment à réfléchir sur cette dimension d'anticipation. Anticiper les évolutions, anticiper les besoins, comprendre vraiment en profondeur comment on protège des citoyens, innover pour protéger, protéger pour innover, c'est-à-dire vraiment le bien-être de la personne. Or, déjà dire ça, c'est tout à fait exemplaire. Mais pour mettre en œuvre le bien-être, par exemple, d'un jeune ou d'un senior ou d'une personne dépendante ou d'une personne handicapée, eh bien, ça remet en cause aussi la manière de faire, la manière de conduire les politiques publiques. Donc, il y a cette exigence qui caractérise notre département, hein, qui est vraiment une recherche d'excellence, mais aussi qui vraiment nous demande aussi d'évoluer et de travailler différemment, élaborer, évaluer les politiques avec les personnes qui sont concernées ou en tout cas celles qui sont aussi dans l'environnement des personnes concernées. Et puis, contribuer à la pacification de la société, parce qu'on le voit, il y a des conflits de tous ordres, il y a un sentiment parfois d'injustice sociale. On l'a vu lorsqu'on a abordé la question au niveau éthique des nouveaux défis de la solidarité sociale, à quel point une colère larvée. Et finalement, dialoguer dans la différence, c'est aussi un premier pas vers la pacification, vers le rassemblement, vers aussi la convergence de politiques et de faire que cet écosystème, finalement, eh bien, il soit vraiment en contact avec la nature. Ici, on le voit avec ce musée et ce jardin au service, finalement, d'un bien commun voilà, à définir peut-être ensemble. Donc, voilà, donc redonner du sens au service public, je crois qu'également... ça remonte régulièrement de nos participants, des personnes voilà, qui contribuent à ces activités et puis continuer à faire fructifier cette coopération entre les acteurs à un niveau vraiment d'interdépendance. Encore une fois, vous voyez, ce mot résonne d'autant plus que lorsqu'on prend en compte l'héritage d'Albert Kahn. Voilà pour ce qui est de cette présentation. Je vous remercie et je vous invite, si vous le souhaitez, à adresser des commentaires ou des questions à notre président. Peut-être on va demander à Julien de revenir et si vous avez des questions avant de laisser la parole à Olivier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ? Parce que sinon, on laisse la parole à Olivier et puis on verra par la suite. Donc, je vais vous demander si vous avez la gentillesse de mettre en place le PowerPoint d'Olivier, comme il y a un petit peu de décalage. Et puis, je vais profiter de que je vois la main élevée pour prendre peut-être des commentaires ou des questions, ou si vous avez envie de parler. Merci.
Oui, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Votre propos, vos propos étaient vraiment très intéressants. Je suis Erwan Barillot, La Fabrique du Futur. On suit énormément le travail des entretiens Albert Kahn. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans les mots d'Albert Kahn, c'est le recours à l'hypothèse quand il dit que les élites doivent comprendre ce qui a été, ce qui est, ce qui serait et ce qui aurait pu être. Et ça nous rappelle que justement la prospective, c'est pas seulement prévoir et anticiper et se préparer à l'avenir, mais c'est prévoir, anticiper et se préparer à l'avenir selon des hypothèses, ce qui pourrait être. Et c'est finalement tout ça est au conditionnel. Comme le passé, finalement, c'est du conditionnel qui a été fixé. L'avenir, c'est du conditionnel en préparation qui va se fixer. Donc c'est ce que je voudrais insister sur la dimension d'hypothèse de la prospective.
Merci beaucoup. D'autres commentaires? Questions, commentaires, monsieur?
Oui, bonjour. Moi, je suis Denis à la Petite. Je suis élu à Boulogne-Billancourt dans la tendance Gerfagnon. Et est-ce que, quand même, un des problèmes, c'est pas que les bonnes idées sont pas assez résumées, c'est-à-dire donnent lieu quand même à des documents compliqués, difficiles à lire et parfois trop abstraits, et que les sujets concrets, bon, moi, je travaille sur le sujet des bords de Seine, bon, mais on pousse pas assez le sujet concret avec les données résumées, enfin. Donc, je sais pas s'il n'y a pas une échelle qui manque entre des débats médiatiques qui se fait parfois sur des quarts de phrases hyper simples et des débats d'experts qui donnent lieu à des documents beaucoup trop compliqués. Alors.
Merci. Je vais répondre sur ça. D'autres témoignages, non ? Bon, je réponds peut-être juste sur la question. C'est pour ça que nous faisons des cahiers. Les cahiers sont adorés. Je ne sais pas si vous avez vu, on a une petite collection, 55 cahiers, qui correspondent à un résumé très synthétique, exigeant, 10 000 signes maximum par contribution, avec une bibliographie pour aller plus loin, des données à chaque fois très précises sur chacun des sujets. Ces petits cahiers sont adorés. On a énormément de retours, à la fois des élus, des équipes municipales qui s'en emparent, qui adorent, également des jeunes. Les jeunes nous disent, ils adorent ces cahiers, parce que finalement, ça va, c'est très profond. Si vous avez peut-être l'occasion, n'hésitez pas à les lire, parce que c'est très profond. C'est pas du tout superficiel. À la fois, ça aborde vraiment la problématique dans le fond, et à la fois, peut-être une heure, vous avez fait le tour de la question qui peut même être complexe. Donc je vous invite justement, nos élus ont beaucoup insisté pour qu'il y ait quelque chose au-delà des débats qui reste. Et donc on a bien sûr le site web qui avec tout est podcasté, tout est enregistré, tout est diffusable. On a des milliers de gens qui viennent justement écouter pour le contenu et également les cahiers qui sont téléchargeables, accessibles à tous. Et ça, c'est grâce à nos élus, on peut le dire. Voilà.
Ouais. J'ai assisté à un EAK avec Patrick de Végian sur la culture pour tous et je me souviens encore aujourd'hui de sa contribution brillante. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas assez des EAK sur la culture. Comment le dire ? On est toujours preneur de la culture. C'est pas un reproche, hein, c'est pas un reproche.
Bon, Élise. Voilà, donc on a notre directrice de la culture qui est là, mais avec qui on a fait déjà pas mal de choses. On va refaire beaucoup de choses d'ailleurs, parce que maintenant qu'on a la chance d'être ici, on va pouvoir aussi créer des liens beaucoup plus proches sur les expositions, entre les EAK et les expositions. Mais en effet, vous avez raison. D'autres points, est-ce que quelqu'un, est-ce que vous voulez répondre à la question du monsieur sur les hypothèses? C'est un peu, alors là, c'est la prospectiviste peut-être qui peut répondre, parce qu'en tant que prospectiviste, je pense que justement le choix est d'utiliser différentes méthodes et de travailler en prospective. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas s'entourer justement d'une intervention d'Olivier Vatelet ou Nicolas Mainviel qui vont venir nous faire travailler en design fiction, enfin quand je dis nous faire travailler, c'est vraiment les équipes de l'administration, ou d'autres voilà, techniques, ou Olivier Zara qui est là, qui nous a fait vraiment travailler sur l'intelligence collective, ou sur le management hybride, ou encore Corinne Egel qui nous a fait travailler sur la systémie et sur la manière finalement d'arriver à composer ensemble malgré une complexité donnée. Donc en fait, on a énormément d'exemples et ce que l'on veut, c'est ne pas s'enfermer dans une école de pensée ou dans un outil et pas faire uniquement que du design fiction. Voilà, parce que le design fiction, ce n'est pas de la prospective. Ça peut être utile, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà, et en effet, les hypothèses sont importantes à prendre en compte. On en reste là, peut-être. Je ne sais pas si tu veux. Oui.
Revenir à la question sur la prospective, nous on a identifié effectivement une association qui s'appelle Futur Proche et qui organise très régulièrement des ateliers en ligne participatifs pour aider les usagers, les citoyens à s'emparer de rapports compliqués. Je pense notamment au rapport transition de l'ADEME. Là, ils ont fait récemment un atelier qui permet justement de faire de la prospective pour tout le monde, quoi. Et c'est en ligne, gratuit. Voilà, il y a des initiatives qui existent aussi.
Très bien. Ben, je vous propose de clôturer cette conférence avec l'intervention d'Olivier Vatelet, donc anthropologue, docteur en anthropologie, cofondateur de Making for Tomorrow, mais peut-être... tu vas te présenter Making Tomorrow. Rapidement. Et surtout, nous faire découvrir, parce que c'était carte blanche pour un regard dystopique des EAK 10 ans. Donc, on est très, très curieux de voir qu'est-ce que nous réservent les 10 ans à venir. Merci encore.
Merci Karine. Bonsoir à tous. Effectivement, je voudrais, avant de démarrer, saluer la prise de risque quand même de la part de Karine, parce qu'elle est double. La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est festif. En même temps, on clôt par une dystopie. Donc, bon, on va essayer d'être sur la corde raide, d'être une dystopie joyeuse. On verra si on a réussi. Et la deuxième, c'est que Karine va découvrir ce que je vais vous présenter en même temps que vous. Donc c'est quand même assez remarquable. Là, c'est une vraie carte blanche. Pour le coup, on a vraiment joué à se faire plaisir. Donc merci vraiment pour l'invitation. Donc je suis Olivier Vatelet, des deux noms affichés. Je suis le premier des deux camarades. Donc Making Tomorrow, c'est effectivement un collectif. On fait du design fiction. On a eu la chance d'animer un atelier. C'était un très grand plaisir. Et puis notre métier, c'est de proposer des scénarios qui interpellent sur les futurs. On travaille autant pour les armées françaises avec le programme de la Red Team que vous connaissez peut-être, que pour la Commission européenne, des collectivités territoriales et puis beaucoup d'acteurs industriels. Je vais pas en parler plus aujourd'hui. Simplement, avant de vous présenter les programmes de l'EAK à 10 ans, le design fiction, c'est ça, c'est rendre présent l'avenir. On l'a évoqué, c'est vraiment intéressant qu'on parle de futur aujourd'hui. On a évoqué la difficulté parfois à rendre concret des projections. Eh bien, là où le design fiction peut avoir du sens, c'est que ça aide par la tangibilisation à raconter ces futurs et puis à les mettre en dialogue dans les mains de tout le monde, littéralement, comme ici, un des derniers salons de l'agriculture avant le confinement, où on avait distribué ce journal de 2040. Qui vous racontait que, et moi je suis belge, je suis très heureux, les vignobles allaient remonter, donc c'est très bien pour nous, on fait d'excellents vins sur les terriers en Belgique, et bientôt on fera du Bourgogne avec bonheur, mais qu'on avait aussi pas mal d'innovations, et on surprenait les visiteurs, on l'invitait à aller sur un stand qui n'existait pas, de manière à ce qu'il s'interpelle lui-même sur les futurs de ce monde agricole qui est en débat. Et donc évidemment, dans le cadre des EAK, on a une réflexion, vous avez une réflexion qui est fascinante, c'est quels sont les futurs de nos territoires et, ce qui est chouette, c'est que finalement, ces imaginaires qu'on va mobiliser, ils s'inscrivent dans des imaginaires que la science-fiction nous propose déjà, de mondes qui peuvent être effectivement très technologiques, mais au prix peut-être d'un certain coupage avec le territoire, avec l'environnement, qui, qui peut nous interpeller, à l'inverse des scénarios qui se veulent beaucoup plus utopistes, hein, de mondes vertueux, très centrés sur le local, mais peut-être aussi au risque, finalement, de s'arc-bouter sur des micro-territoires et de mettre en difficulté des coopérations à plus grande échelle. Donc on le voit, raconter des futurs de territoires, c'est une opération délicate, et je vais m'y essayer avec ce grand plaisir de vous présenter donc les EAK 104 à 108 qui auront lieu en 2032 avec 5 invités extrêmement intéressants. J'en doute pas que vous allez avoir envie déjà d'y être. Petite parenthèse, il y aura encore des EAK dans 10 ans. C'est la partie non dystopique de mon intervention parce qu'évidemment, les EAK sont essentiels. J'espère vous en convaincre. Donc, alors, je vais devoir lire, évidemment, parce que les comptes rendus viennent du futur. Ils me sont arrivés, je n'ai pas pu les apprendre par cœur. Donc, EAK 104, le 22 janvier 2032, pour ceux qui veulent déjà prendre l'agenda, le professeur Gentil de la Bourse de Paris viendra nous parler de l'impact de la cotation boursière des associations de départements sur la solidarité nationale. Alors, c'est un sujet qui, évidemment, intéresse tout le monde, vous l'aurez compris. Le professeur va surtout nous parler des impacts de cette fameuse journée du 10 janvier 2032. Il y a une forme de crash qui a eu lieu sur le territoire. Les bourses et départements se sont absolument excités. Alors je vous fais le compte-rendu que nous propose le professeur Gentil en amorce de cette EAK, que vous devrez tous lire, bien sûr, pour participer à l'événement. Donc, la bourse ouvre à 8h. 8h03, effondrement immédiat et sans surprise des valeurs de référence des départements du Vaucluse, de la Drôme, du Gard et des Bouches-du-Rhône, suite aux pluies torrentielles qui ont ravagé les cultures vitivinicoles, les champs et certains villages de leur territoire ces deux derniers jours. 9h02, le Conseil national des départements français, le CNDF, que je ne présente plus, par l'intermédiaire de son nouveau président nommé au 1er juillet dernier dans le cadre de la présidence tournante, les Hauts-de-Seine succédant aux Pyrénées-Atlantiques, annonce un plan de sauvetage consistant en envoi massif et immédiat de capitaux et de ressources humaines. Cette décision freine la spectaculaire chute de l'indice VDF, valeur des départements français, qui se stabilise à 873 points en milieu de matinée après avoir atteint 650 points à l'ouverture de cotation, son seuil le plus bas depuis le crash de 2030. Mais ça, c'est des choses que vous connaissez très bien, je ne vais pas m'étendre plus avant. 10h57, le D7 à l'association des 7 départements les plus fortunés de France programme une session extraordinaire pour traiter de sa contribution dans le cadre de cette catastrophe naturelle. Et les 7 départements respectent ainsi le protocole d'accord d'Amiens 2029, garantissant une solidarité financière entre le D7 et tout département victime d'une défaillance économique et ou d'un incident climatique de niveau 4 et plus sur l'échelle de Thunberg. Les valeurs des 4 départements déclarés sinistrés, suspendus à 8h15, sont réintroduits et regagnent la confiance des marchés. Alors, la journée était très très dense en événements. Je vais passer directement en fin de journée, puisqu'à 15h57, le convoi de réfugiés climatiques parti de Moselle en début de matinée suite à la pollution des nappes phréatiques causée par l'explosion d'une usine de conditionnement à Magny-les-Metz est arrivé sous bonne escorte sanitaire en gare de Guéret, donc la Creuse, confirme ainsi sa place de numéro 1 dans l'indice de bonheur et de sécurité des citoyens, l'IBSC, à travers cette action reconnue. Et son maintien en tête des départements dans le quatrième marché pose même la question de ce rattachement au troisième marché, une décision qui devrait être prise lors de la prochaine session du CNDF. Enfin, à 17h45, un quart d'heure avant la clôture de la bourse, les Hauts-de-Seine annoncent la validation de l'accord cadre de son partenariat sanitaire médical et sociétal avec son voisin des Yvelines. Rappel des objectifs, un transfert d'unités médicales indépendantes de la part des Hauts-de-Seine pour compenser l'exode médical dans les Yvelines qui ont progressivement perdu 24% de leur capacité de soins. L'indice de référence du 92 se maintient ainsi dans le 4 heures de tête des marchés primaires en compagnie de la Gironde, du Rhône et des Alpes-Maritimes. Vous l'aurez compris, dans 10 ans, il y aura lieu de se battre sur le champ de la solidarité nationale avec des problématiques de financement des départements qui auront trouvé des développements pour le moins intéressants. 2 mois plus tard, le 25 mars 2032, le docteur Gnabi, qui est à la fois chercheur au CNRS et à l'Agence nationale du sommeil, l'a bien nommé, viendra nous parler de la montée des crises, stress et trauma, et surtout de l'usage de l'indicateur clé qu'est l'indicateur du sommeil, qui est devenu le moyen le plus efficient pour mesurer la qualité de vie sur les territoires. Et donc, il nous parlera de la manipulation par les départements de cet indicateur, de comment piloter un département à l'aide du sommeil. Alors, en préambule de cette présentation, il nous rappellera cet article de Libérama du 13 mars 2032, qui, comme à son habitude, faisait le point sur la réalité de la vie nocturne des Franciliens et des Français en général, avec le ton qu'on connaît de Libérama, bien sûr. Alors, je cite, moins 108 minutes, c'est le chiffre très alarmant, mesuré par l'Agence nationale du sommeil pour confirmer une tendance constante au XXIe siècle. Les Français dorment en moyenne beaucoup moins qu'avant. Plus d'1h30 de sommeil perdu entre 2000 et 2030. Le constat touche toutes les catégories socioprofessionnelles, tous les âges, avec de faibles différenciations dans les genres. La principale différenciation, eh bien, c'est la disparité géographique qui démontre nettement des différences d'un territoire à l'autre. On dort beaucoup plus longtemps dans le sud-ouest et nettement moins dans le nord. Conscient de l'impact des paramètres climatiques, des nuisances sonores nocturnes, du temps d'ensommeillement, l'Agence nationale du sommeil compte présenter un projet de loi au Parlement aux fins de confier ce sujet devenu crucial à chaque département afin qu'il adapte une politique locale cohérente et ajustée aux spécificités de son territoire. Les horaires d'ouverture des écoles, des commerces et des entreprises pourraient être conditionnés par des décisions du conseil départemental. Même les règles de circulation pourraient être revues en fonction des horaires du coucher et du lever de soleil. Dans le même temps, les départements se voient consacrer la primauté en matière d'enseignement de techniques du sommeil et le soin de repenser l'occupation des espaces d'apaisement, et notamment la nuit. Jouant sur un jeu de mots d'une grande facilité, la Somme a décidé d'adopter un nouveau slogan « Mieux dormir chez nous ». Au-delà du coup de com', il apparaît évidemment que les départements vont pouvoir miser sur la qualité et la quantité de sommeil de leurs habitants pour se démarquer dans leur attractivité territoriale. De là, consacrer un palmarès annuel des départements où ils font bien dormir, certains fournisseurs de matelas y réfléchissent sérieusement. 2 mois plus tard, nous aurons le plaisir, le 27 mai 2032, pour le EAK 106, d'accueillir Jenny Marx de la Table de Jenny, la célèbre chef qui fait les beaux jours de la télévision française, et qui viendra nous parler du Grand Concours National Culinaire qui a pour objectif de rendre enfin acceptables les protéines de synthèse qui peinent à trouver leur marché, dont pourtant le ministère de l'Industrie nous recommande largement la consommation quotidienne pour soutenir la politique agricole française. Et donc ce Grand Concours National a le mérite précisément de tenter une hybridation avec le patrimoine gastronomique français et cette noble nouvelle patrimonialisation de l'industrie par les protéines de synthèse. Donc je lis l'intitulé du concours et les règles qui ont été rappelées dans Cuisine Industrielle Magazine. Le syndicat national du respect de l'alimentation et de la nutrition organise pour la première fois un concours à destination de tous les départements français désireux de prouver leur irréprochabilité en matière de transition culinaire. Et il était bien temps. Sur la base de produits naturels, sains, bioéthiques et uniquement issus de terres et usines, bien sûr, départementales, intégrant donc de ce fait les innovations nanoprotéiques autorisées depuis peu par le Parlement, les brigades départementales mixant professionnels et citoyens devront composer 10 recettes différentes issues des produits du terroir, garantissant des plats adaptés à tout type de population. Et les créations seront bien sûr jugées par un différent panel d'experts, des nutritionnistes, des médecins, mais aussi des collégiens et des citoyens. Le Cantal, l'Aveyron, la Dordogne et le Morbihan se sont immédiatement déclarés candidats à l'organisation de la première compétition. En effet, c'est sur la base d'un tournoi qualificatif que se joueront les matchs au fur et à mesure des saisons pour coller à la réalité des territoires. L'objectif est ainsi de dégager le champion, toute catégorie qui affichera le meilleur ratio coût, satisfaction, digestibilité, respect environnemental. En revanche, certains départements, notamment ceux à forte concentration urbaine, ont déclaré leur scepticisme devant une inégalité de produits locaux, même si ces territoires peuvent largement compenser quelques différences à travers les innovations nanoprotéiques de leurs industries agroalimentaires, des fermes périurbaines de nouvelle génération. Cuisine des terroirs et cuisine des territoires ainsi revisités risque de révéler quelques surprises. Un célèbre site de Paris en ligne a d'ores et déjà annoncé qu'il collaborerait au projet à travers un système de mise de gains et de cotes accessible à toutes et tous visant à définir le territoire le plus gastro-gourmand de l'année. Et bien sûr, nous avons l'idée que les Hauts-de-Seine seront en haut du panier après cette EAK très instructif. Quatrième et avant-dernier EAK de l'année 2023, le 23 septembre 2032, de retour de vacances, nous allons bien sûr parler tourisme avec IA23.PO, la nouvelle intelligence artificielle en charge de la direction du tourisme du département, qui nous présentera les aménagements réalisés très ambitieux sur le territoire et notamment les politiques de poldérisation qui ont enfin pris au sérieux la problématique de la montée des eaux. Avec le retour sur la campagne de publicité qui a marqué tout l'été, dont vous vous souvenez très certainement, dont je vais reprendre un des arguments les plus repris sur les chaînes radio et autres objets numériques. Envie de détente et de pureté à quelques hectomètres de Paris, amoureux de l'environnement aquatique, prêt pour une virée en bateau, une pêche insolite, un bain rafraîchissant, des montagnes russes d'embarcations maritimes, des plongées sous-marines, alors rejoignez les eaux de Seine. C'est le nom du parc aquatique que nous ouvrons chaque jour de l'année à des visiteurs et des touristes de plus en plus nombreux, à l'idée de vivre l'expérience inédite d'une incursion dans une zone artificiellement naturelle. Irriguée par les canaux dérivés de la Seine, cette terre d'accueil, de jeux et de divertissement est aussi une terre de culture, de pêche, de tourisme et de préservation d'un écosystème intégralement inclus dans une ville existant depuis des dizaines d'années. Comme vous le voyez, d'autres villes prétendent aux mêmes prouesses. Une prouesse d'innovation paysagiste, un défi écologique, une bulle autosuffisante sous une inspiration empruntée au polder des Pays-Bas. La zone volontairement inondée emprunte un parcours alliant des visites culturelles, des explorations de produits locaux, des jeux d'eau pour les petits et les grands, des haltes gourmandes et j'en passe. C'est Venise à mieux, en mieux, à quelques pas de Paris, qui vous attend le temps d'un séjour qui promet des hauts avec des tarifs très bas. Ne tardez pas, l'écluse pour y entrer Neptune 92 est ouverte tous les jours, 24 heures sur 24. Et puis je rajouterai que l'esprit chagrin se rassure, la dengue 32 a été officiellement éradiquée du territoire. Le port de combinaison FFP32 n'est donc plus obligatoire pour se réjouir sur le site. Enfin, dernier EAK de l'année, le 25 novembre 2030, le commandant Hakim Bey de la délégation Soft Power du ministère des Armées nous entretiendra d'une problématique extrêmement importante, et là, pour le coup, certainement un peu moins riante, puisque vous le savez, le territoire des Hauts-de-Seine réunit une très forte proportion d'entreprises globales qui se jouent sur le territoire, une lutte acharnée pour attirer les profils à plus haut intérêt. Et donc, le soft power, qui très longtemps a été une affaire de réunion mondaine, est devenu soudain une réalité pour tous les possesseurs de systèmes dans le métaverse, de sorte que déambuler ou échanger avec l'administration devient un véritable cauchemar pour les citoyens, sans cesse mobilisés et alpagués par les nations qui souhaitent vous mobiliser dans leurs grandes entreprises. Une des réponses a été de travailler avec les industries, notamment culturelles, et de développer un certain nombre d'applicatifs qui vont permettre aux citoyens franciliens en particulier de pouvoir enfin déambuler dans la ville en respirant. Et je vous partage une publicité d'une première expérimentation parisienne, mais bien sûr, les Hauts-de-France vont également très prochainement suivre sur cette expérimentation.
Vous n'en pouvez plus de toutes ces infos, de toutes ces pubs, de tout ce vacarme numérique. Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps, de vivre à une époque moins frénétique. Avec la nouvelle appli Rétro Paris, arpentez le beau Paris paisible du tournant du millénaire. Au sein du confort de votre safe sphère préférée, revivez le passage à l'an 2000 et promenez-vous dans les rues de Montmartre vidées par le confinement de 2020. Rétro Paris, l'appli de voyage qui rajeunit. Carte interactive, 50 dates clés, 300 filtres et avatars disponibles.
Alors évidemment, vous l'avez compris, toute ressemblance est tout à fait fortuite avec la réalité. Et pour autant, au-delà d'avoir essayé de vous amuser un petit peu pour répondre au cahier des charges d'une soirée qui se veut festive mais dystopique, nous avions à cœur avec l'équipe de mettre en avant un certain nombre de défis et qui, derrière ces fictions peut-être interpellantes, montrent la difficulté de faire territoire commun, notamment à l'échelle nationale avec des départements qui ont leurs propres problématiques, comment gérer la désunion territoriale à l'échelle du territoire et plus largement, comment continuer à faire de la qualité de vie une réalité partagée, non pas un luxe, et si le sommeil peut sembler amusant, c'est effectivement le prisme d'une transformation des habitudes et des corps qui est intense et sur lequel le département a lui aussi une matière à intervenir et à agir. À manger, bien sûr, un besoin fondamental dont aujourd'hui on réinterroge finalement l'évidence suite aux différentes crises que nous sommes en train de confronter et pour lequel très certainement des politiques ambitieuses vont devoir être mises en œuvre et pour lequel aussi il va falloir apprendre à changer. Et ces changements, il s'appréhendra très certainement à l'échelle locale et à l'échelle départementale. Enfin, dialoguer avec le vivant ou mettre en scène le vivant, on sait tous très bien aujourd'hui qu'il va falloir travailler sur ces problématiques environnementales, que l'eau est un défi conséquent. Est-ce que nous allons en faire une nouvelle source d'opportunités économiques ou est-ce que nous serons capables d'arriver à aménager le territoire en équilibrant à la fois ressources économiques et enjeux environnementaux et écologiques? Et enfin, peut-être de manière peut-être plus surprenante dans les discours du moment, mais néanmoins une réalité extrêmement importante, dans un monde globalisé, nos territoires sont plus que jamais sous diverses influences et il nous apparaît intéressant de pointer cette réalité pour aussi rester lucide face à ces enjeux globaux qui nous affectent sur nos territoires. Comme quoi, finalement, le design fiction et surtout les EAK sont des événements qui, avec effectivement un caractère à la fois expérimental et combinant le sérieux et, de ce que nous avons pu voir, l'amusement, permet de toucher à des sujets extrêmement importants, ce qui fait que je serais ravi de voir que dans 10 ans, les EAK continuent à animer la réflexion et je suis très heureux d'avoir pu en établir le programme. Nous verrons s'il se réalise dans 10 ans. Merci pour votre attention.